Et les matins débutent avec le journal de Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. À Prague, près de 250 000 personnes dans les rues hier pour réclamer la démission du Premier ministre Andrej Babis, accusé notamment de fraude aux aides européennes. Reportage de notre envoyé spécial en République tchèque dans ce journal.
Et puis en Turquie, une nouvelle claque électorale pour le parti du président Erdogan.
Une victoire historique à Istanbul pour les opposants. Les partisans d'Ekrem İmamoğlu ont fait la fête toute la nuit après l'annonce de sa victoire hier à l'élection municipale. Récit sur place de notre correspondante Anne Andlauer.
Et puis à Marseille, Emmanuel Macron souhaite relancer le dialogue entre les pays de la Méditerranée en mettant en avant la société civile.
Mais les questions sensibles ne sont pas au programme du sommet des deux rives qui se tient aujourd'hui, regrette le chercheur spécialiste de la région Karim Émile Bittard, on l'entendra. Et puis la privatisation du crématorium du Père Lachaise à Paris inquiète notamment le gestionnaire actuel du site, précision de Tara Schlegel dans ce journal. Et puis la question du jour, Guillaume.
Pourquoi la flambée des prix de l'immobilier est-elle mondiale? Nous poserons la question à Thomas Gjubin, économiste au CEPI.
La colère monte encore d'un cran dans les rues de Prague. Près de 250 000 personnes réunies hier, selon les organisateurs. C'est deux fois plus que lors de la précédente manifestation du 4 juin dernier. Pour un mouvement contre le clientélisme et l'affairisme en cours depuis le mois d'avril. Un rassemblement qui a eu lieu hier pour réclamer la démission du Premier ministre Andrej Babis. Le Premier ministre tchèque soupçonné notamment de conflits d'intérêts et de fraude aux fonds européens pour ses enrichissements personnels. À Prague, rassemblement suivi par notre envoyé spécial Ludovic.
Des Tchèques toujours un peu plus nombreux à chaque fois avec cette revendication scandée par la foule, démission. Dans leur viseur, le Premier ministre Andrej Babiš, Marie le compare au diable, elle qui est venue dans ce parc l'Etna, comme elle l'avait fait il y a presque 30 ans, en 1989 pour la révolution de velours, avec des mots d'ordre similaires.
Je vais démontrer pour la liberté, pour la justice.
Et elle continue en allemand, Babiš est pour nous très mauvais et c'est un très grand menteur. Andrej Babiš, deuxième fortune du pays, était apparu sur la scène politique en profitant de la défiance des Tchèques envers les partis traditionnels. Un an et demi après sa victoire, il est conspué par une partie de la population qui a le sentiment, une nouvelle fois, comme Lucie, d'avoir été trompé.
C'est important parce que je vois que les gens, ils se réveillent, ils réfléchissent qu'est-ce qui se passe. Mais de l'autre côté, on doit voir qu'il y a beaucoup de gens qui votent Babiš.
Encore toujours,
oui.
Cette journée prouve que la pression populaire s'intensifie sur le Premier ministre Andrej Babiš, mais qui, dans une déclaration à l'un des titres de presse qu'il possède, a estimé qu'il n'avait aucune raison de démissionner. La date du samedi 16 novembre a d'ores et déjà été arrêtée par les organisateurs pour un nouveau rassemblement. Cette fois, ce sera à la veille des 30 ans de la révolution de velours. Et l'objectif sera bien cette fois de réitérer le record des 500 000 personnes présentes à l'époque pour chasser le communisme et faire tomber le rideau de fer.
Ludovic Piétonu, envoyé spécial de France Culture en République tchèque. En Turquie, c'est un nouvel échec électoral pour le président Recep Tayyip Erdogan. L'opposant Ekrem İmamoğlu a remporté une victoire retentissante aux élections municipales d'hier à Istanbul. Il engrangerait plus de 54% des suffrages face au candidat du parti au pouvoir, l'AKP. Le président turc, qui avait fait annuler un premier scrutin en mars, a cette fois rapidement reconnu la défaite de son camp. Pour l'opposition, c'est une victoire historique. À Istanbul, le reportage Lower.
Immédiatement après l'annonce des premiers résultats, Ekrem İmamoğlu saluait ses partisans réunis sous les fenêtres de son QG de campagne.
Cette victoire, c'est une nouvelle page qui s'ouvre à Istanbul. C'est un nouveau départ qui apportera à Istanbul la justice, l'égalité, la tolérance et la débarrassera du gaspillage, de l'arrogance, de l'ostentation, de la polarisation. La Turquie entière a gagné ce soir.
Avec un grand sourire, Asma, une militante, agite un drapeau rouge à l'effigie du nouveau maire. Elle rappelle que l'opposition n'avait pas gagné Istanbul depuis 25 ans.
Jusqu'ici, chaque élection amenait une nouvelle défaite et une nouvelle déception. Aujourd'hui, je suis très heureuse. J'ai prié toute la journée et maintenant, je vais faire la fête.
Ozan Öcek, un membre de la campagne d'Ekrem İmamoğlu, estime que l'opposition doit saisir cette victoire pour engager la reconquête électorale du pays.
Les électeurs viennent de donner une bonne leçon au parti au pouvoir. Pour nous, c'est la fin de l'hégémonie qu'il imposait à ce pays depuis 17 ans. Pendant les 5 prochaines années, avec les politiques que nous allons mener à Istanbul, nous allons montrer à tout le monde ce qui se passe quand l'opposition récupère une mairie à l'AKP. Mais le perdant, ce soir, c'est le chef de l'AKP, c'est Erdogan.
Dans les rues d'Istanbul, les partisans des Kremlinmoğlu ont célébré leur victoire pendant toute la nuit, reprenant en chœur le slogan de campagne du nouveau maire « Tout ira très bien ».
Anne Andauer, correspondante de France Culture à Istanbul.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Sophie Delpont dans les matins de France Culture. Un sommet des deux rives de la Méditerranée se tient aujourd'hui à Marseille.
À l'initiative d'Emmanuel Macron, l'objectif est notamment de relancer le dialogue après l'échec de l'Union pour la Méditerranée lancé par Nicolas Sarkozy. Un sommet en l'absence des chefs d'État où seul le président français est présent après avoir rencontré hier les ministres des Affaires étrangères de 9 autres pays participants, notamment ceux de l'Algérie, de la Tunisie et de la Libye, de l'Italie, du Portugal et de Malte pour l'Union européenne. Aujourd'hui, ce sont les acteurs de la société civile de ces pays qui prendront la parole avant une conclusion d'Emmanuel Macron. Karim Émile Bitard est directeur de recherche à l'IRIS, Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Il n'est pas convaincu par cette initiative, même si l'Élysée veut mettre en avant le rôle de la société civile.
Malheureusement, je pense que cela est utilisé plutôt comme un argument de vente, que les enjeux sont plutôt économiques. Les sociétés civiles aujourd'hui dans le monde arabe sont véritablement anesthésiées, traumatisées, elles ont été domestiquées, mises au pas. La contre-révolution l'a emportée, même si cette victoire n'est peut-être que temporaire et que bientôt on assistera de nouveau à des vagues de colère dans plusieurs pays arabes. Ce qui s'est passé en 2011 était une véritable rupture et il ne faut pas penser que la colère contre la situation sociale et économique et contre l'absence de liberté a disparu. Aujourd'hui, revenir à une approche purement économique et occulter ces questions de fond que sont le retour de l'autoritarisme, la non-résolution du conflit israélo-palestinien, les dérives unilatéralistes du président Trump qui viennent encore aggraver la situation au Moyen-Orient, les risques d'embrasement dans le Golfe avec l'Iran, se focaliser uniquement sur des tentatives maladroites de relancer d'anciennes initiatives économiques me semble voué à l'échec. Il faudrait être à la fois plus ambitieux et plus réaliste.
Karim-Émile Bita répondait à Anne Fauquemberg. Pour aller plus loin, un article sur le rapport des présidents français à la Méditerranée est à retrouver sur notre site internet franceculture.fr. Le Premier ministre Édouard Philippe reçoit lui son homologue russe aujourd'hui, Dimitri Medvedev, au Havre, une semaine après la venue du président ukrainien Volodymyr Zelensky, reçu par Emmanuel Macron à l'Élysée. Au menu des discussions, il sera sans doute encore beaucoup question de l'Ukraine. Et dans le contexte international, les deux chefs de gouvernement auront aussi pour objectif de maintenir actif le canal de discussion entre la France et la Russie à Moscou. Les précisions de Claude Bruyot.
Vu du Kremlin, l'objectif de cette rencontre entre les deux chefs de gouvernement est assez simple. Il s'agira de poursuivre le dialogue entamé au plus haut niveau il y a 2 ans à Versailles entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine et prolongé l'an dernier à Saint-Pétersbourg et à Moscou durant la Coupe du Monde de football. Même si les présidents russes et français échangent parfois par téléphone, la séance de travail qui attend Dmitri Medvedev sera l'occasion de faire un point approfondi, notamment sur les crises régionales syriennes et surtout ukrainienne, et cela en dépit du fait que le Premier ministre russe souhaiterait lui davantage s'étendre sur les échanges économiques bilatéraux 4 jours après l'annonce par l'Union européenne de la prolongation pour 6 mois supplémentaires de ses sanctions contre la Russie 5 ans après l'annexion de la Crimée. Sur l'Ukraine, justement, Dmitri Medvedev sera-t-il porteur d'un message de Vladimir Poutine qui permettrait de relancer les accords de Minsk toujours dans l'impasse? Rien n'est moins sûr, le président russe, jeudi dernier, a encore critiqué vertement son homologue ukrainien opposé au dialogue avec les séparatistes pro-russes du Donbass au sortir de sa rencontre avec Emmanuel Macron il y a 8 jours à l'Élysée.
La Cour de cassation se penche à nouveau sur l'affaire Vincent Lambert après 6 ans de rebondissements judiciaires. La famille de cet homme en état végétatif depuis 10 ans se déchire entre ses parents qui souhaitent le maintenir en vie et sa femme qui demande l'arrêt des traitements. Plus de précisions dans le journal de 7h30 sur France Culture. À Paris, plusieurs élus dénoncent la privatisation du crématorium du Père Lachaise. Après la décision du conseil municipal le 11 juin dernier de confier à un opérateur privé la gestion du site et la construction d'un deuxième crématorium porte de la Villette. L'incinérateur des défunts ne peut être considéré comme un marché comme un autre, souligne l'ancien directeur de la Société d'économie mixte qui avait en charge jusque-là l'organisation des 6000 cérémonies organisées au Père Lachaise. Tara Schlegel l'a rencontré.
François Michonnerard a dirigé 22 ans la société contrôlée à 74% par la municipalité qui gérait les crémations à Paris jusqu'à ce jour. Choisir un opérateur extérieur est pour lui une hérésie. Avant 98, le crématorium du Père Lachaise avait déjà fait l'expérience du privé.
D'une part, il était dans un état absolument déplorable, sans aucun entretien. Et puis d'autre part, il ne s'y passait rien sur le plan des cérémonies. C'était une salle d'attente avec une musique de fond. Point. Il n'y a pas de raison que les gens qui ne sont pas croyants n'aient pas droit à des cérémonies qui ont du sens.
Pénélope Comites, l'adjointe aux espaces verts dont la délégation a choisi le projet Funécap, réfute ces arguments.
Ce n'est pas un choix de passer au privé puisque ça reste notre propriété et ça reste un service qui est encadré par un contrat, notamment en termes de tarifs. Et vous imaginez bien que nous allons demander et vérifier à chaque instant que tout se passe correctement, en termes de laïcité, en termes d'accueil du public, en termes de cérémonie, etc.
Mais François Michonnerard persiste. Dans le futur crématorium du 19e, par exemple, que fera-t-on des cendres des défunts?
Dans le nouveau projet, il y a moins de 500 cases de columbarium versus 40 000 au Père Lachaise. Il n'y a pas de jardin de dispersion. Donc, que vont faire les familles? En 6 mois, tout sera plein. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un avenant au contrat de délégation. Et c'est à ce moment-là que, si le candidat actuel a fait des sacrifices financiers, il va pouvoir se rattraper.
Il ajoute que le choix du dossier Funécap s'est fait dans le secret du bureau de Madame Comites, laquelle a décidé de le poursuivre en diffamation.
Tara Schlegel pour France Culture. La chaleur monte encore, sauf en Bretagne, où il fait 15 degrés ce matin à Brest sous la pluie. Des orages sur le Morbihan, sur l'Ille-et-Vilaine ainsi que sur les côtes de l'Aquitaine. Un voile de brume sur le reste de la moitié nord. Météo France a placé en vigilance orange pour cause de canicule la région parisienne et la Seine-et-Marne. Du soleil sur la moitié sud, les températures moyennes sont comprises entre 17 et 28 degrés au cours de la matinée. Avec 17 degrés à Brest, 21 à Amiens, on devrait passer rapidement de 22 à 28 degrés à Paris. Même température qu'à Marseille ce matin, jusqu'à 35 degrés cet après-midi.